Et tout de suite, les infos.
Informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Procès Thomas Sankara, le général Gilbert Diendéré nie les faits à lui reprocher. Insécurité au Burkina après sa marche pour exiger les démissions de cet an en ministre en juillet dernier. L'opposition annonce cette fois des manifestations pour la démission du président du Faso si les choses ne changent pas d'ici les jours à venir. Au Bénin, 26 œuvres appartenant au trésor royal d'Abomey ont repris hier le chemin du retour de la France pour le Bénin. L'ex-président Blaise Compaoré peut-il encore aider à la stabilité du pays en prenant attache avec les leaders terroristes qui étaient hébergés à Ouagadougou? Non, répond son ancien premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Il est notre invité. Et nous débutons par le procès Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré réfute les accusations du parquet poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation à deux témoins. Le numéro 2 du Sénèque et patron du Conseil de l'Entente à l'époque dit n'avoir pas été mis au courant du coup d'État du 15 octobre 1987. Abdoul Fattah Vatiem Touré nous revient sur la version des faits du général Gilbert Diendéré.
J'ai entendu des tirs, j'ai constaté, j'ai rendu compte, c'est tout. C'est en ces termes que le général Gilbert Diendéré résume sa version des faits liés à l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Selon son récit, le 15 octobre 87, il a tenu une réunion avec les éléments de garde de Blaise Compaoré et Thomas Sankara à propos notamment des rumeurs de tension entre les deux leaders de la révolution. La réunion visait donc à dire aux hommes de rester militaires et de ne pas se fier aux rumeurs à en croire le général. Après la réunion, il serait rentré chez lui entre midi et 13h pour se restaurer avant de revenir au Conseil de l'Entente vers 15h30. Le jeudi étant jour de sport de masse, il se serait changé avant de se rendre au terrain de l'ENAM. C'est de là que le général dit avoir entendu les tirs provenant du Conseil, accouru sur place, il dit n'avoir pas eu d'informations précises avec les hommes de garde. L'un d'entre eux aurait seulement dit que ça tire au secrétariat du CNR. En avançant, il aperçoit des soldats assis sous un manguier, parmi lesquels il reconnaît Nsoni Nabié et Arzuma Otis Ouedraogo, membres de la garde de Blaise Compaoré, à une dizaine de mètres seulement des corps. Celui de Thomas Sankara est reconnaissable dans sa tenue de sport. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demande le général selon ses dires, et ses interlocuteurs de répondre que le président Sankara avait prévu d'arrêter leur chef et qu'ils ont décidé d'anticiper. Est-ce que Blaise Compaoré est au courant? Relance Diendéré. À cette question, Otis aurait répondu qu'il s'en fout. Selon le général, c'était une surprise, personne ne pouvait penser, et moi particulièrement je n'avais pas pensé, qu'une action de ce genre pouvait se passer à l'intérieur du Conseil de l'Entente, a-t-il déclaré. Mais pourquoi n'avoir pas tenté d'arrêter ceux qui venaient de poser cette action et qui l'ont reconnu, demande le procureur Arsène Sanou. Et réponse de l'accusé, je suis arrivé désarmé, sans garde du corps, dans un endroit encerclé par des gens qui ont tué le président et 12 autres personnes. Qu'est-ce que je pouvais faire? Le moindre faux pas de ma part pouvait faire en sorte que je fasse partie des gens qui étaient couchés. J'aurais été la 14e victime, assure Diendéré, qui poursuit son récit. De retour à son poste, il aurait immédiatement rendu compte de la situation au commandant en chef des armées, Jean-Baptiste Lingani, qui lui aurait ordonné de renforcer le dispositif de sécurité du Conseil, ce qui a été fait selon lui. Pour ce qui concerne les corps, il dit avoir appris plus tard que ce sont des prisonniers qui ont été chargés de les enlever puis de les enterrer sous l'instruction, cette fois encore, du commandant en chef Jean-Baptiste Lingani.
Et dans quelle disposition le général Gilbert Diendéré est-il arrivé à la BAM? Abdoul Fattah Thiem Touré toujours.
Le général Gilbert Diendéré est arrivé d'un pas rassuré à la barre, tenue militaire treillis type léopard, comme on désignait à l'époque la tenue du RSP. manches retroussées jusqu'au cou, des petites lunettes sur le nez. Les autres accusés ont comparu assis au vu de leur santé ou de leur âge. Le général, lui, avec sa taille imposante, a préféré rester debout. Et il semblait très détendu, serein, avec beaucoup d'assurance, parfois même trop aux yeux du parquet militaire. À une question du procureur, Arsène Sanou, l'accusé lui dira d'aller la poser à Blaise Compaoré. Le procureur, visiblement énervé, va lâcher « Je ne peux pas continuer l'instruction face à quelqu'un qui n'a aucun respect pour ma personne ». Le juge a préféré en ce moment ordonner une suspension permettant de baisser la tension de part et d'autre. À une autre question relative à ce qu'il aurait appris sur les événements du 15 octobre, depuis lors jusqu'à maintenant, l'accusé répondra « Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Je suis là pour répondre à vos questions sur des faits, mais si c'est pour vous raconter ma vie depuis ces 34 ans, je suis désolé, je ne peux pas. » Par contre, il était bien à l'aise pour parler de son exploit lorsqu'il y a eu le crash du vol Air Algérie au Mali. Il dit fièrement « C'est moi, Gilbert Diendéré, qui ai donné la position exacte de là où l'avion s'est crashé, pendant que les Français n'ont rien vu, malgré leur drone. C'est en ce moment qu'on a commencé à m'appeler boîte noire. En 87, je n'étais pas encore boîte noire. » Il répondait ainsi au juge qui s'étonnait de voir que le général Diendéré, à l'époque lieutenant, commandant adjoint du Sénèc, patron du camp Conseil de l'Entente, siège de la Révolution, n'ait pas pu avoir certaines informations sur ce qui se passait. Et on peut s'attendre à d'autres discussions plus ou moins tendues ce mercredi avec la suite de l'interrogatoire, cette fois avec les avocats des partis civils.
Merci Abdoul Fattah, Tiem Touré, la suite de cette édition. Et nous parlons d'insécurité à présent avec le chef de file de l'opposition au Burkina qui a animé une conférence de presse hier. L'opposition qui a agi de faire le point sur, s'est agi plutôt que l'opposition de faire le point sur la situation de la nation. Au cours de cette rencontre, l'opposition a annoncé ensuite des manifestations pour exiger le départ du président du Faso, Roch Kabore. Si rien n'est fait d'ici à un mois, il s'agira d'un dernier avertissement. Les détails avec Régis Bonny.
Si dans un délai d'un mois, rien de sérieux et de concret n'est entré pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement.
Par ces mots, l'opposition politique burkinabé appelle le pouvoir en place à prendre des mesures fortes pour maîtriser la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition politique déplore une situation de plus en plus inquiétante pour le Burkina Faso et rassure que cet ultimatum n'est pas pour renverser le président Kabore. Eddie Comboyego.
Notre combat se fera démocratique. Si nous avons donné un délai, c'est parce que nous pensons que nous devons leur donner un dernier avertissement. Nous avons dit que nous réagirons au bout du mois. Nous avons si rien n'est fait. L'objectif n'est pas d'aller renverser le gouvernement. L'objectif, c'est de ramener la paix au Burkina et de développer le Burkina dans le respect de la Constitution.
L'opposition politique fait remarquer également que le naufrage du pays est inévitable. Eddie Comboyego, chef de file de l'opposition politique.
Le poisson pourri par la tête du temps, la tête de notre Faso est chroniquement absente. Et quand le navire est sans capitaine, le naufrage est inévitable. Nous demandons à tous les patriotes et sincères de se tenir prêts pour les prochaines actions en vue de sauver notre navire en perdition et léguer une terre complète à nos enfants. Nous avons hérité d'un Burkina entier et nous devons le transmettre entier à nos descendants.
Le CFOP appelle donc le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la situation sécuritaire du pays des hommes intègres s'améliore et que la paix revienne au Faso.
L'association alternative de veille citoyenne acteur économique pour le développement de la patrie, quant à elle, soutient le gouvernement burkinabé. Elle aussi a tenu une conférence de presse hier. Jean-Paul Ouédraogo avec la voix de Yacouba Wilio pour le reportage.
Selon l'association alternative de veille citoyenne, acteur économique pour le développement de la patrie, la guerre que le Burkina subit est l'œuvre des ennemis qui veulent mettre en échec sa démocratie et mettre en cause son indépendance. Saïbou Kwanda, président de l'alternative de veille citoyenne, acteur économique pour le développement de la patrie.
Notre pays traverse depuis 6 ans une guerre injustifiée, Cette guerre lâche et barbare a pour corollaire le déplacement de plus d'un million de personnes appelées déplacées internes et la multiplication d'actes terroristes avec pour cible nos FDS, nos VDP et civils sous l'œil passif de la communauté dite internationale et des forces amies présentes sur notre territoire.
Selon l'alternative de veille citoyenne, la situation sécuritaire est étroitement liée à la situation économique du pays et pour une sortie de crise, elle a sa petite idée. Saïbou Kwanda.
Nous demandons la mobilisation générale pour vaincre le terrorisme. Nous demandons au président du Faso de placer des hommes de qualité et patriotes dans nos ministères pour l'aider à la relance économique et vaincre la vie chère et le terrorisme. Nous demandons une communication de guerre active. Nous demandons l'ouverture des frontières terrestres pour faciliter la bonne circulation des personnes et des biens. Nous appelons tous les absorbeurs de pouvoir qui prétendent avoir des solutions sécuritaires à la région de la République. Nous demandons à la population de s'impliquer véritablement dans la lutte contre le terrorisme afin de sauvegarder notre indépendance.
En outre, l'association prône la préférence nationale en matière de politique économique et demande aux acteurs économiques ainsi que au peuple burkinabé de s'unir derrière la République représentée par le président Roch Kabore.
Un incendie s'est déclenché hier sur le site Onea de Pissi à Ouagadougou. Le feu s'est propagé assez vite, mais les soldats du feu se sont activés pour le maîtriser. Le reportage est signé Elisabeth Yanogo et Benabé Cabré.
C'est aux alentours de 13h30 que l'incendie s'est déclenché sur le site Onea de Pissi. Très vite, les flammes se propagent. Une foule de curieux se forme rapidement pour observer la scène. Pas de blessés ni de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Lassine Assanou est le secrétaire général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement.
C'est essentiellement du matériel de réseau, c'est-à-dire des conduites d'eau servant au réseau de distribution et au branchement. À cette heure-ci, moi je ne saurais vous le dire, nous avons aussi constaté l'incendie comme vous. Vous avez aussi constaté également sur le terrain les sapeurs-pompiers qui sont venus vraiment d'une manière rapide. Une procédure va être mise en place tout de suite pour permettre en tout cas de détecter pour le moment les causes.
Mais selon un témoin rencontré sur place, tout serait parti d'un désherbage du site. Assami Guigma.
Ils ont désigné des gens pour venir enlever les ordures, voilà, pour essayer de mettre ça au propre. Quoi. Maintenant, au lieu d'utiliser les machettes et les dabas, ils ont venu et commencer à mettre le feu. En temps, s'ils voient que non, le pâté est chaud, ils partent, ils éteignent. Mais en temps, le feu a pris la chose. On pouvait même pas, on pouvait rien faire.
Malgré la violence des flammes, les sapeurs-pompiers ont réagi avec promptitude pour maîtriser la situation. Simplice Ouedraogo est le commandant de la 10e compagnie.
Au regard de la promptitude de nos éléments, quand ils sont arrivés sur les lieux, et ça a permis de circoncire le feu et éviter vraiment que le feu se propage. C'était puisque c'était la mission principale quand ils sont arrivés. Ils ont constaté qu'il fallait d'abord lutter contre les propagations et ensuite essayer maintenant d'abattre les flammes à travers le renfort qui est venu pour soutenir les premiers engins qui s'étaient déjà présentés sur les lieux. Alors il faut le dire, quand le premier engin s'est présenté, il a constaté que le feu était très violent et c'est ce qui a d'ailleurs expliqué la demande des renforts qui est venue pour soutenir ce premier engin afin de pouvoir venir à bout à l'extinction totale des tuyaux PVC.
Les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont rassuré que cet incendie n'aura aucun impact sur la distribution de l'eau dans la ville de Ouagadougou.
Hors de nos frontières, 26 œuvres appartenant au trésor royal d'Abomey ont décollé hier pour le Bénin, d'où elles avaient été pillées en 1892. L'acte de transfert de propriété a été signé hier à l'Élysée par les ministres béninois et français de la culture en présence des présidents Talon et Macron. Au moment où la France restitue au Bénin ses 26 œuvres d'art pillées par ses troupes coloniales, d'autres pays européens qui emboîtent le pas. L'Allemagne et la Belgique ont en effet lancé des procédures similaires avec le Nigeria et la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni, en revanche, reste sous aux demandes. Le processus de restitution d'objets d'art pillés pendant la période coloniale se sont multipliés depuis le discours prononcé par Emmanuel Macron à Ouagadougou. En 2017, le président français s'était alors engagé à restituer le patrimoine africain en Afrique.
Omega Sport.
Arrivé à lundi sous un temps glacial, 6 degrés, les Italiens se sont en tout de suite mis au travail. En dehors des blessés, l'entraîneur national a son groupe au complet. Le point de la première séance avec notre envoyé spécial Ibrahim Bailly.
Avec les arrivées de ce mardi après-midi de Edmond Faisal Tapsouba et de Mohamed Konaté, le groupe Étalon est maintenant au complet. Un groupe qui se passera de certains cadres comme Bertrand Isidore Traoré. Le capitaine Issoufou Dayo travaille dur pour être sur pied ce vendredi contre le MENA du Niger.
Tout à fait, oui. Je travaille dur avec Léo, avec la kiné, avec Dr Alain. Ça va, on essaye de vraiment faire tout pour que je sois là pour le match du Niger d'abord, qui est plus important. Et après, pour aller en Algérie en pleine forme pour pouvoir jouer le match à plein là-bas.
Blessé également, le portier titulaire Hervé Kofi Kwaku, qui est annoncé, est incertain. La bataille pour son poste est engagée et le jeune Kylian Nkema, qui retrouve les Étalons après 2 ans, le sait très bien.
Je veux faire tout pour aider le pays, donc quand je dois aider le pays, je vais faire, oui. C'était 2 ans que je n'étais pas ici et je pense que je suis maintenant un mieux gardien. Et donc, je pense que c'est mieux moment pour moi d'être porte de la groupe.
Les Étalons seront donc au complet pour les entraînements de ce mercredi après-midi. Une situation qui permettra à l'entraîneur national de composer déjà son 11 de départ de ce vendredi. Ibrahim Bailly qui vous a parlé de Marrakech pour Omega Media.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Comme annoncé en titre, notre invité du jour est le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adolphe Thiaw. Avec lui, nous revenons sur les accusations du régime Kabore vis-à-vis du régime Compaoré d'être derrière les attaques, les accusations qui s'étaient faites en tant que premières attaques au Burkina. Nous l'écoutons. Parlons de sécurité justement, comment est-ce que vous êtes senti lorsque aux premières attaques déjà du côté de la majorité et autres, on entendait certains indexés l'ancien régime, vous ne vous êtes pas senti indexé là?
Non, à titre personnel, non, parce que je n'ai...
Mais comment est-ce que vous êtes senti lorsqu'il
y a... Oui, mais bon, évidemment, vous savez, bon, ça c'est difficile d'entendre ce genre de propos. Moi, je me suis dit, bon, il y a d'autres peut-être qui connaissent mieux le président Blaise Compaoré que moi. Mais moi, le temps que j'ai vécu avec lui à Abidjan et le temps que j'ai échangé avec lui, je n'ai jamais eu l'impression qu'il ait voulu profiter de ces relations qu'il avait. Et tout ça, enfin, qui était d'ailleurs recommandé par la CEDEAO, le système des Nations Unies, j'étais convaincu, moi en tout cas je le suis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai aucune preuve de croire qu'il est capable de le faire.
Ceux-là qui affirment que ces groupes qui attaquent le Mali tant bien que le Burkina et le Niger, des leaders étaient hébergés à Ouagadougou aux frais du contribuable, et donc justement que l'ex-président Blaise Compaoré a soutenu des terroristes à un moment donné, vous qui étiez Premier ministre à l'époque, qu'avez-vous à répondre ici?
De ce que je sais, Blaise Compaoré a travaillé officiellement à la demande de la CEDEAO, à la demande des Nations Unies. Ce n'était pas des rebelles, ce n'était pas des terroristes. C'était des mouvements rebelles qui avaient la caution de certains pays. Vous les connaissez très bien. Et ce sont ces pays qui ont demandé au président Compaoré de s'impliquer dans la médiation pour régler les problèmes qui étaient au Mali. Il était médiateur officiel par les Nations Unies. Des chanceliers diplomatiques le touchaient lorsque leurs compatriotes avaient des problèmes. C'est ce que moi je vois en tant que journaliste que je constatais. Mais je ne sais pas, je ne veux pas vous dire que, comme le disent certains, que Blaise en dessous finançait les terroristes. On peut dire que Blaise a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire. Je pense que lui-même, de fois, il a dit ça, il a assumé. La rébellion en Côte d'Ivoire, il a assumé parce qu'il pensait que le nouveau système politique qui était là faisait beaucoup de tort à ses compatriotes. Nous avions 3 ou 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et cette situation a fait qu'il a soutenu les opposants. Il a même soutenu, à un moment donné, Laurent Gbagbo.
Justement.
Mais dire qu'il a financé les terroristes, moi je n'ai aucune preuve, mais j'ai dit s'il agit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À l'époque, on ne parlait même pas de terrorisme, on parlait de rébellion du Mali et du Niger. Et le terrorisme n'a pas attendu que Blaise tombe pour commencer à sévir dans ces pays. Maintenant, toute la question est de savoir pourquoi, subitement, on s'est retrouvé être la cible privilégiée.
Vous savez, les gens... prêt à vous poser cette question.
Non, c'est tellement simple parce qu'aujourd'hui, vous avez vu comment le mouvement terrorisme s'est développé dans le monde. Depuis que, dans les années 2000, l'Afghanistan était devenu le passion du terrorisme international. Ceux qui sont derrière le terrorisme ont des idéologies. Des idéologies que nous ne partageons pas du tout. Pour eux, il faut convertir le monde à un type d'islam que même les... Nous, heureusement que nous avons un pays où nous avons une communauté musulmane très ouverte, que même, je dirais, entre guillemets, si on peut le dire, laïque. Mais ces personnes-là pensent qu'on peut amener un autre islam qui est à mesure de résoudre les problèmes donc des Africains. Et tout ce qui s'est passé après la chute de Kadhafi, évidemment, les armes ont circulé. Et les gens, là où ils avaient des problèmes, ont commencé à écouter les voix de ceux qui prêchaient la violence. C'est pourquoi le terrorisme a commencé dans les parties les plus pauvres de notre pays. Ça, quelque part, vous savez, quand vous avez été un ancien premier ministre, vous devez reconnaître effectivement que nous n'avons pas fait assez. Pour le Nord. Nous n'avons pas fait assez dans ces régions où nous n'avons pas été persévérants. Donc la pauvreté s'est installée et ça a fait le lit pour ceux-là qui venaient prêcher des idéologies et ou bien qui étaient dans des trafics de tout genre. Parce que ça aussi, en fait, sous le couvert, l'autre aspect, sous le couvert du terrorisme, ce sont des trafics de bandits, ce sont des trafics narcotiques, etc. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout cela qui s'est mélangé au Burkina, lutte idéologique, religieuse, extrême, extrémisme violent, religieux, et également aussi tout ce qui est comme criminalité transfrontalière, ils ont trouvé un moyen de pouvoir gagner leur vie, parce que je ne suis pas sûr que tout ce que nous supposons partout soit forcément le fait de djihadistes.
Et bien justement, vous avez tantôt souligné l'ex-président Compaoré, donc, qui était médiateur, et donc au nom de ce titre-là, avait donc hébergé des chefs de groupes rebelles, aujourd'hui donc, qui sont des chefs de groupes terroristes. Pensez-vous aujourd'hui que si l'ex-président s'implique, il pourrait faire entendre raison à ces derniers pour que son pays puisse retrouver un tant soit peu la paix?
D'abord, en ce qui concerne, bon, les choses ont changé. Comme vous avez dit, les simples rebelles qui n'étaient pas des terroristes à l'époque, certains sont passés, sont devenus terroristes. Donc ils ne sont plus du tout dans le même état d'esprit où ils étaient, une rébellion où ils cherchaient d'abord l'indépendance, à régler les problèmes. Mais je me dis, quoi qu'il en soit, l'ex-président, comme d'autres anciens présidents, au Nigeria, nous avons le président Olusegun Obasanjo, nous avons le président Jonathan. Mais quand vous avez exercé le pouvoir pendant un certain nombre d'années, malgré tout ce que vous avez fait, s'il y a eu des insuffisances, vous avez toujours des relations, vous avez des réseaux d'information. Si on vous sollicite, c'est votre devoir d'apporter votre contribution pour résoudre les questions. Je crois que le président Compaoré, il a quelquefois, je pense, rédigé des lettres pour se mettre à la disposition du Burkina, pour contribuer à régler les problèmes. Mais c'est pas forcément que c'est lui qui allait résoudre, parce que les problèmes qui se posaient en son temps ne sont plus les mêmes que les problèmes que nous vivons aujourd'hui.
Merci à vous. Voilà. Donc,
merci beaucoup.
Je rappelle Luc Adolphe Tiao.
Merci. Voilà.
À l'instant, l'ex-premier ministre Luc Adolphe Tiao. Brema Maïga à la technique, Denis Zungrand à la présentation. Ravi de vous avoir présenté cette édition. Excellente journée à l'écoute des programmes de la radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Omega Media, ce sont nos stations radio de Ouaga et Bobo-Dioulasso.